Après ce premier entretien, nous passons au petit salon et nous vous proposons une autre discussion puisque nous avons aujourd'hui invité Audrey Garcia, masterante en lettres à l'école, à se joindre à nous pour parler cinéma. Bonjour Audrey.
Bonjour Célia.
Donc la première édition du Festival Lumière a mis à l'honneur les westerns et les principaux événements westerns de l'édition 2009 ont bien sûr été la rétrospective consacrée à Sergio Leone, chef de file du western italien, et la présence de Clint Eastwood, l'un de ses acteurs, qui a été le premier lauréat du Festival Lumière, puisque ce festival a créé le prix Lumière. Donc, c'est pour nous l'occasion de revenir sur ce genre du western, qui a évolué en même temps que le cinéma et qui continue à faire parler de lui, à être un objet de débat, puisque on se pose toujours la question du bon western, du vrai western, et tout le monde a une sorte de western culte dans les recoins de sa mémoire. Toi, Nina, par exemple, quel titre te vient immédiatement à l'esprit quand on évoque le genre du western ?
Alors, je vais me placer dans la droite ligne de ton introduction, puisque le western qui vient immédiatement à l'esprit est un western de Sergio Leone, pour quelques dollars de plus. Alors, tu parlais de bon, de mauvais, de vrai, de faux western. Ben, on dira tout ce qu'on voudra sur la non-authenticité des westerns de Sergio Leone, sur le côté kitsch du western spaghetti, sur les longueurs, etc. Je veux bien tout accorder, mais n'empêche, il y a des scènes d'anthologie dans les westerns de Sergio Leone et notamment dans Pour quelques dollars de plus. Par exemple, Lee Van Cleef qui craque une allumette sur le dos d'un bossu et s'ensuit un dialogue verbal phénoménal. Ensuite, le duel de chapeaux entre le même Lee Van Cleef, auquel je voue, entre parenthèses, une admiration sans borne. Donc entre ce Lee Van Cleef et Clint Eastwood. Et enfin, ce que je n'ai pas réussi à appeler autrement que le triel, c'est-à-dire cette bataille à trois où les trois protagonistes, du film sont placés en cercle avec pour ordre de tirer dès que la mélodie d'une boîte à musique s'éteint. On ne sait pas qui survivra à la fin, sans doute vont-ils tous s'entretuer. Et donc durant toute la mélodie, Sergio Leone s'en donne à cœur joie. Ce ne sont que des plans rapprochés sur les visages, aux yeux plissés, sur les gouttes de sueur, sur les mains toujours plus serrées sur la gâchette, sur la bouche de Clint Eastwood qui mâchonne sa cigarette, etc. Et puis en plus, dans ce film, il y a la musique d'Ennio Morricone, alors que demander de plus ? Moi, ça me va. Toi, t'avais pensé à quoi ?
Moi, j'en ai un. On ne connaît pas trop. Il s'appelle El Dorado, de Howard Hawks. Je prononce très bien. C'est un western des années 60. Puis bon, il ne fait pas partie des très très grands westerns, mais pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Je l'ai vu au moins 20 fois quand j'étais petite. Et je l'ai revu il y a peu de temps et je trouve que j'avais plutôt bon goût, franchement. C'est un film qui reprend des thèmes très typiques du western hollywoodien, avec l'amitié entre les deux hommes, entre donc Robert Mitchum et John Wayne. Ils sont deux égaux, les meilleurs tireurs de l'Ouest, tu vois, ceux qui ont une très bonne réputation, mais une réputation à tenir. Ils ont fait fortune ensemble, ils ont trouvé de l'or, ils sont évidemment amoureux de la même femme. Voilà. Et il y a pas mal d'autres thèmes comme le sens de l'honneur. Enfin, l'un veut retrouver l'homme qui a tué son protecteur, l'autre veut sauver la réputation de son ami qui est devenu alcoolique et dont tout le monde se moque. Et c'est assez amusant, il y a aussi quelques femmes et elles ont pas mal de caractère, pas mal de peps. Et bon, ce que j'aime bien dans ce genre de western, c'est que tout est parfaitement clair. Les méchants sont horribles, très laids. Il y en a un qui a une balafre qui lui découpe le visage en deux. En plus, il s'appelle MacLeod et c'est prononcé avec un
méchant irlandais.
MacLeod. Voilà, les méchants ne tiennent jamais parole. Ils sont très laids. Les gentils sont beaux. Ils sont blessés, mais pas trop gravement. Donc c'est simple, efficace et il y a même de l'humour. Et Audrey, alors ? Qu'est-ce que nous a préparé Audrey ?
Moi, j'avoue, ça me pose un grand problème de parler d'un seul western. Alors, surtout, essayer de dire quel est le meilleur western, là, ça devient impossible, c'est très compliqué. Oui, non, un vrai, un faux. Donc, j'ai décidé de choisir le dernier western que j'ai vu, qui s'appelle La colline des potences, The Hanging Tree, de Delmer Daves, et qui date de 1959. Le film préféré de mon cher papa adoré, au passage. Donc, un vrai western qui met en scène l'éternel Gary Cooper, qui incarne un docteur, le docteur Joseph Frail, qui est héros à la fois bon, mystérieux, il y a quelque chose dans son passé qu'on ne sait pas trop, et qui est bien sûr, comme dans tout western, le meilleur tireur de l'Ouest, Il soigne donc une jeune femme, la célèbre actrice Maria Schell, qui est connue parce qu'elle a des yeux bleus magnifiques. En plus, là, elle est aveugle, donc c'est parfait. Qui est rescapée d'une attaque de diligence. Et donc, en fait, il n'ose pas lui déclarer son amour en, cause, en raison de ce passé trouble qui le hante. Donc, au programme, de beaux paysages, la représentation plutôt rare dans les westerns, finalement, de chercheurs d'or, qui sont avides jusqu'à la folie. Un véritable méchant qui est nommé Frenchy, donc on en pense qu'on en veut, et surtout un héros qui va retrouver goût à l'amour. La scène finale est simplement magnifique et on a beau dire, Gary Cooper ne cesse d'être un grand acteur de western, peut-être le meilleur. Mais loin du western crépusculaire, il est peut-être grand temps de se tourner vers le prix 2010 de notre festival Lumière. En effet, il commence en musique avec l'un des plus grands classiques hollywoodiens, selon moi, Singing in the Rain de Stanley Donen, qui sera présent à vie aux amateurs, et Gene Kelly, bien sûr. Un choix qui ne peut et ne pouvait que susciter l'unanimité et qui s'inscrit dans la continuité de la Biennale de la Danse, qui, cette année encore, a fait la part belle au cinéma avec la diffusion des Chaussons Rouges de Powell et Pressburger, mon petit coup de cœur. Mais outre ces deux grands classiques, Célia, quelle comédie musicale te tient à cœur ?
Alors moi, finalement, je m'éloigne pas tellement de Eldorado parce que je suis dans les années 60 avec West Side Story, donc de Robert Wise et de Jerome Robbins, donc film de 1961. Et bon, j'imagine que vous l'avez vu.
Ah oui.
Voilà. La belle guerre des gangs musicales dans les rues de New York. Bon, j'adore les séquences dans lesquelles les clans ennemis s'affrontent. C'est absolument formidable. Et même si le film est adapté du Roméo et Juliette de Shakespeare, c'est un objet vraiment original. On n'a pas l'impression qu'on est dans de l'imitation ou dans une véritable adaptation. Et je crois que la force du film, ce n'est pas vraiment l'histoire, c'est plutôt ses chorégraphies, ses chansons qui sont devenues des classiques, qu'on a envie de chanter mais qu'on chante mal. Voilà, pensez simplement à la scène d'ouverture, bon, je la revois. Donc la lutte, qui est un magnifique ballet des Jets contre les Sharks, ça, c'est magnifique. Donc voilà, les Jets, donc ceux qui avaient le terrain, et les immigrés portoricains qui arrivent pour régner sur quelques rues, sur un terrain de basket. C'est extraordinaire, c'est le genre de film ouais, qu'on rêverait de voir au cinéma en grand.
En grand écran, c'est ça.
Oui, le vivre dedans.
Moi, j'avoue, je suis peut-être un peu plus vieux jeu, parce que je préfère les films de Minelli, dont surtout un de mes préférés, Brigadoon, qui date de 54, et qui est adapté d'une comédie musicale théâtrale, donc du Ziegfeld Theater. Et donc ici, on retrouve le couple le plus glamour, Gene Kelly Sid Charis, dans un contexte à la fois romantique et fantastique. Donc deux Américains qui découvrent un village maudit en Écosse. Et ce village, justement, n'existe qu'un seul jour tous les 100 ans. Donc on voit des chorégraphies magnifiques dans un décor qui est intégralement créé en studio, ce qui est quand même impressionnant. Et dans ce village du XVIIIe siècle, en gros, c'est l'usine à rêve et on trouve un savant mélange de tradition écossaise et de claquettes jazzy. En fait, une fois sorti du cinéma, on a encore le thème musical en tête et on se prend à rêver que le petit village, enfin, peut-être surtout Gene Kelly,
oui,
va apparaître derrière la brume. Et toi, Nina ?
Alors, moi, ben, je serai encore plus vieux jeu, puisque je vais remonter en 1946.
Ah oui, t'es très vieux,
Nina. Et, pardon.
C'est bien, c'est bien.
Je sais pas ce que je suis encore ici. Mais je dois vous avouer que j'ai péché et que j'ai cédé à la tentation de vous vanter les mérites d'un film que je n'ai pas vu.
Ah oui.
Alors, c'est un film, vous allez comprendre. C'est un film de Stuart Haisler avec Bing Crosby, John Caulfield et Fred Astaire.
Fred Astaire, quoi.
Parce que pour moi, les claquettes, c'est Fred Astaire. Gene Kelly, très bien, mais Fred Astaire, beaucoup mieux. Et donc, si je n'ai pas vu le film, j'en ai vu une séquence. C'est un numéro de danse absolument époustouflant de mon héros. Donc on pourrait croire d'abord à un numéro solo de Fred Astaire, sympathique, sur la musique de Putting on the Ritz. Mais c'est bien plus que cela, parce que c'est d'abord un duo, Fred Astaire et sa canne. Grâce à la canne, elle lui sert de troisième claquette en fait, donc en la frappant au sol, il peut complexifier le rythme, accélérer le rythme d'une manière vraiment très très impressionnante, et tout ça se complexifie encore lorsque Fred Astaire pousse une porte derrière lui et est soudain démultiplié. Donc on a finalement Fred Astaire, sa canne et derrière lui 9 petits Fred Astaire.
Le rêve.
Qui dansent aussi, il y en a pour tous les goûts. Et donc qui dansent en ligne derrière lui, tantôt suivant ses mouvements, tantôt se détachant de lui. C'est vraiment génial. Et Fred Astaire danse comme toujours en absolu virtuose. Il n'hésite pas à faire des contretemps, parfois à ralentir alors que la musique se met à accélérer, à faire des mouvements très lents. Et parfois, tout simplement, à s'arrêter de danser et juste à marcher. Et même quand il marche, Fred Astaire est merveilleux. Il a un sens de la marche phénoménal. Ça vous donne envie de monter au plafond. Et d'ailleurs, c'est presque, parfois, c'est dans le presque rien de la marche qu'il se montre le plus virtuose. Mais je m'arrête là. Parce que sur Fred Astaire, on ne m'arrêterait plus. Et je vous propose de quitter la piste de danse pour étendre notre jeu à toute la programmation du festival et pour vous demander quel serait le film de la sélection 2010 que vous avez déjà vu et que vous recommanderiez absolument à nos auditeurs. Audrey, par exemple.
Alors, devant une telle programmation, ça devient quand même compliqué, mais je crois que j'irai volontiers revoir French Cancan de Renoir, donc film de 1955, qui n'est pas très éloigné des comédies musicales, c'est sûr, mais qui représente surtout pour moi le cinéma français tel que Gabin a su l'incarner avec brio. Donc ici, Gabin campe le rôle de Danglars, directeur de salle de spectacle à Montmartre, qui va remettre le French Cancan au goût du jour en ouvrant, et oui, le Moulin Rouge. Et donc, c'est Nini, une jeune blanchisseuse, qui chante la fameuse complainte de la butte à sa fenêtre. Et elle trouvera le succès, donc, grâce à la chanson et grâce à Danglars. Cette chanson du jeune Mouloudji qui résonnera dans le Moulin Rouge de Baz Luhrmann en 2001. Si Nini, bon, on va dire ce qui est, n'a pas exactement le sex appeal de Nicole Kidman, ce film n'en reste pas moins un vrai petit bonheur, une version populaire du Paris des cabarets que vraiment j'adore et que je vais aller revoir. S'y passer plusieurs soirs, je crois que j'irai voir peut-être tous les soirs. Et donc une dernière remarque, le film en plus sera programmé avec un documentaire de Pierre Philippe intitulé « Gaumont passionnément » qui à mon avis vaut le détour en plus du film.
Quant à moi, je ne vais pas faire très original, parce que celui que je voudrais vous conseiller est sur l'affiche du Festival Lumière 2010, c'est Le Guépard.
Mais quel film !
De Luchino Visconti, donc sans hésiter, j'ai dû voir le film une dizaine de fois, peut-être pas 20 comme toi Eldorado, mais vraiment beaucoup de fois. Et je ne m'en lasse pas, parce qu'il est d'une beauté folle. Alors la beauté de l'image, la beauté de la musique évidemment, et puis la beauté des acteurs. Hein. Burt Lancaster qui incarne une virilité, la puissance, l'aristocratie, un peu inerte comme ça. Alain Delon, complètement aux antipodes, juvénile, vibrionnant, hâbleur. Et puis la femme, Claudia Cardinal, créature de rêve, qui électrise vraiment complètement le film dès qu'elle entre en scène. Mais, outre la beauté, je voudrais aussi souligner combien ce film est intelligent. Parce qu'il ne faudrait pas le limiter à une grande comédie romantique, une grande histoire d'amour. Il est très trouble et très complexe, beaucoup plus complexe que ça. Luchino Visconti met en œuvre tout un système d'échos. Par exemple, l'écho entre la révolution politique menée par les Garibaldiens et l'insurrection amoureuse dont Angelina, jouée par Claudia Cardinal, est l'instigatrice. Angelina, fille d'origine roturière, qui va bouleverser le monde clos de l'aristocratie sicilienne. Et il met aussi en œuvre tout un système d'opposition. L'opposition entre la jeunesse et la vieillesse, entre l'ancien et le nouveau, entre l'élan et l'inertie. Des oppositions très complexes, pas seulement binaire, que finalement Alain Delon, qui joue Tancrède, résume en une phrase au début du film, je vous le cite, « Si nous voulons que tout continue, il faut d'abord que tout change. » Je m'arrête sur ces belles paroles, mais simplement, je voudrais préciser que si le film est aussi beau, il le doit quand même beaucoup au roman de Lampedusa qui en est à l'origine. Et le roman n'est pas moins fantastique que le film. L'aisance avec laquelle l'écrivain nous plonge dans l'époque qu'il décrit, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle, est très troublante, parce que j'étais convaincue qu'il était contemporain de cette époque qu'il décrivait et que j'ai découvert après la lecture du livre que celui-ci avait été écrit en 1955. Donc à peine plus de 10 ans avant son adaptation au cinéma. D'accord. C'était très étonnant. Célia, pour conclure.
Alors moi, je sors des années 70. J'espère que vous êtes contents. Mais pour aller dans les années 70,
oh, elle joue l'avant-gardiste.
C'est pas très loin. Et puis bon, et je vais faire très cliché aussi, puisque le film que je vais foncer aller voir, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, donc de Milos Forman, qui va recevoir le prix Lumière cette année.
On te comprend.
Donc bon, oui, mais on me comprend exactement.
On viendra avec toi d'ailleurs.
Voilà, ce n'est pas un film, c'est un boulet de canon. Je crois qu'on peut le dire. Et il est tellement impressionnant sur petit écran que j'imagine à peine ce qu'il peut donner au cinéma. Donc dans ce film, je ne sais pas si vous revoyez la tête de Jack Nicholson, grimaçant à souhait,
sans problème,
qui se fait passer pour fou, histoire d'échapper à la prison. et qui, une fois internés dans l'hôpital psychiatrique, poussent les malades à se révolter contre le système répressif dans lequel ils sont enfermés. Et c'est vraiment le genre de film qui fait rire, mais dont notre rire nous met mal à l'aise tout de suite. Parce que c'est parfois hilarant, oui. Moi, je revois la séance de sport où il essaye d'apprendre à jouer au basket à cette espèce de grand là, qui doit faire au moins 2 mètres. Ou encore la sortie en bateau de tous les fous.
La sortie en bateau est géniale.
Et voilà, donc c'est vrai, c'est très drôle, mais en même temps, c'est absolument grinçant. C'est une sorte d'hymne tragique à la liberté, mais d'hymne très puissant, et je crois qu'aucun spectateur n'en sort indemne. Peut-être qu'on devient fou, peut-être nous aussi, je sais pas.
On te verra revenir de la séance.
Voilà, vous viendrez me voir après à l'hôpital psychiatrique. Donc bon, difficile d'arrêter une conversation comme ça sur le cinéma qui pourrait durer des heures et des heures. Donc Audrey, merci beaucoup d'être venue.
Merci
avec nous
à vous
aujourd'hui.
De m'avoir invitée, hein, à toutes les deux.
Et donc à très bientôt dans les salles obscures du Festival Lumière.
Je n'y manquerai pas, j'y serai.
Beaucoup de films à aller voir.